On a quatre évangiles. Les quatre parlent de la résurrection de Jésus. La semaine dernière, j'ai terminé l'évangile de Marc avec la résurrection. Pascal vous a partagé ce que dit Matthieu sur la résurrection. Et aujourd'hui, on va se pencher plus particulièrement sur l'évangile de Jean, ce que dit l'évangile de Jean. Jean chapitre 20. Chaque évangile, le Seigneur nous a laissé quatre évangiles pour mettre l'accent sur un domaine en particulier. Et donc je vous invite à prendre Jean, chapitre 20. Et le titre que j'ai donné à mon message, c'est une question. Est-ce qu'il faut voir pour croire ou est-ce qu'il faut croire pour voir? Faut-il voir pour croire ou croire pour voir? Ce texte, eh bien, nous éclaire. Et je vais prier. Seigneur, je te remercie pour, encore une fois, Père, nous avoir laissé ta parole. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous en nourrir, Seigneur. Tu es là, tu veux nous éclairer, tu veux nous aider à la comprendre, à nous en nourrir. Seigneur, qu'elle soit notre nourriture. Chaque jour et aujourd'hui, nous te demandons qu'elle pénètre notre cœur et que, Seigneur, on soit vraiment conscient de ce que tu es ressuscité, de ce que tu es vivant. Seigneur, ta parole est vivante. Qu'elle touche nos cœurs et Seigneur, je me repose sur toi pour ce message. Au nom de Jésus. Amen. Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. L'autre disciple que Jésus aimait, il s'agit de l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, et il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à sa tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous !» Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous !» Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout, au milieu d'eux. Il leur dit « Que la paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'hésitais entre deux textes pour ce dimanche, la prédication de ce dimanche, mais comme un aimant, je suis revenu sur ce texte-là. Et alors, évidemment, nous rappelons la résurrection de Jésus, et pas seulement ce dimanche-là, mais c'est chaque dimanche, n'est-ce pas? Et dans ce texte, il est question évidemment de la résurrection de Jésus, et pas seulement, il y a quelque chose qui est étroitement attaché, il est question de mission, de la mission. La résurrection précède la mission. Jésus envoie ses apôtres, et pas seulement, il veut aussi nous envoyer. Mais avant de nous envoyer, avant d'envoyer ses disciples, eh bien, c'est ce que je vais voir en trois points. Jésus ressuscité console. D'abord, il console. Deuxièmement, nous verrons que Jésus ressuscité pardonne et donne sa joie, sa paix et son esprit. Et troisièmement, nous verrons que Jésus ressuscité nous demande de croire qu'il est ressuscité avant d'aller. Donc, des préalables à ce que nous allions. Premièrement, Jésus ressuscité console. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est inquiet pour l'avenir ? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt de nature pessimiste ? Sans beaucoup d'illusions ni d'espoir, surtout dans le monde où nous vivons. Après la mort de Jésus, les disciples étaient sans illusion, ni espoir. Ils étaient tristes, sans aucun espoir. Ils pensaient avoir perdu leur maître pour toujours. Peut-être êtes-vous de ceux, en tout cas, qui ont perdu un proche récemment ou il y a longtemps. Et vous avez besoin parfois d'aller vous recueillir sur sa tombe, juste pour vous rappeler de la personne. Ce matin de Pâques, une femme triste se rend au tombeau où a été enseveli Jésus. Il s'agit de Marie-Madeleine, donc cette femme de mauvaise vie que Jésus a sauvée, a d'abord délivrée de ses 7 démons. Une femme qui était donc méprisée et que Jésus avait guérie et sauvée. Et cette femme l'avait suivie ensuite, une femme qui aimait beaucoup le Seigneur. Elle s'était levée très tôt pour aller embaumer son corps. Jésus est mort, elle pense que Jésus est encore mort et elle veut rester attachée à lui, même si elle le croit mort. Mais aux surprises, elle voit la pierre rouler, le corps n'est plus là, elle se demande s'il a été déplacé ou s'il a peut-être été volé. Elle n'avait pas encore compris que Jésus était ressuscité. Alors, elle va courir prévenir Pierre et Jean. Pierre et Jean, qui en entendant la nouvelle, vont courir à leur tour, tous deux ensemble au tombeau, et un va courir plus vite que l'autre. Il s'agit de Jean, qui a écrit cet évangile. L'apôtre Jean, il arrive le premier, mais lui, il s'arrête à l'entrée, il n'entre pas. Puis Pierre arrive ensuite, lui, il rentre, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit les bandelettes et le linge qui avait été plié, bien mis à part, bien plié, là où avait été mis Jésus. Alors, des voleurs n'auraient certainement pas pris le temps de plier le linge. Ni la peine, ni le temps de plier le linge. Non, c'est l'ange qui a roulé la pierre. Et puis Jean, il rentre à son tour. Et à ce moment-là, il voit non pas le Seigneur, il voit deux anges. Pardon, il voit le tombeau qui est vide. Et le texte nous dit qu'il crut. Il crut, nous dit le texte. Et les deux, Pierre et Jean, sont retournés chez eux. Pas Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle est restée. Elle est restée et elle est revenue au tombeau et elle pleurait. Aucun des trois n'avait encore vu le Seigneur. Et là, c'est alors que deux anges dans le tombeau lui demandent alors « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Puis un homme derrière elle lui pose la même question « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Et lui pose une autre question « Qui cherches-tu ?» Évidemment, elle cherchait son Seigneur, le corps de son Seigneur. Elle n'avait pas compris que Jésus était ressuscité, pourtant elle le cherchait. Elle le cherchait. Elle cherchait son corps. Marie-Madeleine est tellement troublée par son chagrin qu'elle ne reconnaît pas que c'était Jésus qui lui parlait. Elle croit voir le jardinier, à qui elle jette un regard furtif, et elle lui demande où est le corps de Jésus. L'homme l'appelle ensuite alors par son prénom, Marie. C'est alors qu'elle se retourne et elle reconnaît Jésus, qu'elle appelle Rabouni, ce qui veut dire maître. Si Pierre et Jean étaient restés plus longtemps au tombeau, on peut supposer qu'ils auraient vu le Seigneur avec Marie-Madeleine. Mais le Seigneur a attendu qu'il soit parti. Il a attendu qu'il soit parti avant de se montrer à Marie-Madeleine. C'est elle seule qui est restée. Elle allait rester. Marie, dans les évangiles, elle avait une relation de proximité avec le Seigneur. Elle était très proche de lui. Elle aimait beaucoup le Seigneur. Elle avait suivi, elle avait assisté de ses biens. L'apôtre Jean aussi, il est appelé dans l'évangile de Jean le disciple que Jésus aimait. Et il s'agit de lui, le disciple que Jésus aimait. Et lui aimait le Seigneur. Tous deux, Marie-Madeleine et Jean, avaient une relation de proximité avec lui. Et puis c'est Marie-Madeleine et Jean qui sont restés au pied de la croix, alors que tous les autres disciples avaient fui. C'est dans Jean 19, les versets 25 et 26. Qu'on peut voir que Jean et Marie-Madeleine étaient restés à la croix. Tous deux, Jean et Marie-Madeleine, ont montré qu'ils aimaient le Seigneur. Et c'est pas par hasard si au final, eh bien, Jean, il a été le premier à croire que Jésus était ressuscité. Et Marie-Madeleine a été la première à voir Jésus ressuscité. Jean a cru, le premier à croire à Jésus ressuscité. Et Marie-Madeleine à voir le Seigneur ressuscité. Si nous, les deux avaient une proximité avec le Seigneur, si nous avons une proximité avec le Seigneur, si nous le cherchons, en un mot, si nous l'aimons, eh bien, nous entendrons sa voix. Nous la reconnaîtrons et nous le suivrons. C'est ce que Jésus lui-même a dit dans le même évangile, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Marie-Madeleine a tout de suite reconnu la voix de son Seigneur quand il l'a appelé par son prénom. Nous l'entendrons aussi nous appeler par notre prénom. Et nous recevrons ses instructions, si nous l'aimons. Si nous avons cette proximité avec le Seigneur. Alors Jésus avait des instructions pour Marie-Madeleine, il lui a donné une mission. Sa mission, c'était d'aller trouver ses disciples et de leur parler de sa part. Haute mission confiée à Marie-Madeleine, à qui a été fait l'honneur d'être la première témoin de la résurrection de Christ. Marie-Madeleine qui a été consolée par le Seigneur avant d'aller. Marie-Madeleine, la première femme missionnaire. Et ici, c'est la première fois que Jésus appelle ses disciples ses frères. Mes frères. Il les appelle ses frères. Pourquoi ? Parce que Dieu devient le Père de celui ou celle qui place sa confiance en son Fils unique, Jésus, pour être pardonné de ses péchés. Comme Morel a dit, nous devenons ses petits frères, ses petites sœurs à Jésus. Et Dieu devient notre Père. Tous ne sont pas enfants de Dieu, nous avons tous été créés à l'image de Dieu, mais seuls ceux qui ont placé leur confiance en son Fils, Jésus, mort pour nos péchés et ressuscité, deviennent ses enfants. Et deviennent les frères et sœurs de son Fils, Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu. Quand il est remonté au ciel, il est allé nous préparer une place. Il est venu pour nous avoir avec lui, tout le temps. Jésus, avant de l'envoyer, il l'a consolé. Il a consolé Marie-Madeleine. Et il veut aussi te consoler si tu es dans la peine. Avant la mission, Jésus console, il rassure. Et non seulement Jésus console, mais aussi Jésus pardonne. C'est mon deuxième point. Jésus pardonne et il donne sa paix, sa joie et son Saint-Esprit. Les apôtres maintenant, à la différence de Marie-Madeleine qui, elle cherchait le corps de Jésus, elle cherchait Marie-Madeleine et elle a trouvé. À la différence de Marie-Madeleine, les disciples ne cherchaient rien, mais ils étaient restés ensemble, apeurés, tristes, cloîtrés dans un lieu ferme, porte fermée, par crainte des Juifs. Ils cherchaient pas, ils avaient trop peur pour ça. Marie-Madeleine, elle a rempli sa mission, et elle est allée les voir, elle leur a dit qu'elle a vu le Seigneur, lui répétant ses paroles. Elle a vu le Seigneur ressuscité. Et ici, c'est pour ça que c'est tellement bon et important de lire tous les évangiles, de lire toute la parole. Dans l'évangile de Marc, ce qu'on a vu la fois dimanche dernier, dans l'évangile de Marc, on voit très clairement que l'accent est mis sur l'incrédulité des apôtres. Je vous recite le verset 11 de Marc, chapitre 16. « Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 11, il est dit qu'ils tinrent ces discours, donc les discours de Marie-Madeleine, pour des rêveries. Ils ne l'ont pas cru. Mais ici, dans l'évangile de Jean, Jésus ne fait pas le reproche de l'incrédulité, sauf à Thomas, je vais y revenir. Ici, dans l'évangile de Jean, l'accent est mis plutôt sur la paix, la joie que Jésus donne, que Jésus ressuscité donne. Et je vais même dire malgré l'incrédulité. Jésus les a appelés ses frères. Et c'est à eux que Jésus va ressusciter, va se montrer miraculeusement, apparaissant miraculeusement au milieu d'eux. Les portes étaient fermées. Jésus leur dit une première fois « La paix soit avec vous ». Et il leur montre la marque des clous dans ses mains et la marque de la lance qu'il avait transpercée. Et à nouveau, Jésus leur redit « La paix soit avec vous ». Jésus connaissait très bien leurs troubles, leurs peurs. Les disciples avaient besoin d'être rassurés. Et ils avaient surtout besoin d'être pardonnés, d'avoir lâché le Seigneur, d'avoir fui. Et Jésus le savait. Alors leur peur et leur tristesse vont se changer en joie, la joie de revoir le Seigneur vivant. Et aussi certainement la joie de se savoir pardonné, puisque Jésus leur dit « la paix soit avec vous ». Leurs vies vont être transformées dès cet instant. Et là, on peut dire effectivement un moment de deuil temporaire, de tristesse temporaire, va laisser la place à une joie et une paix éternelle, parce que Jésus est ressuscité pour toujours. Alors, arrêtons-nous quand même un instant sur cette apparition miraculeuse de Jésus au milieu de ses disciples alors que les portes étaient fermées. Arrêtons-nous sur le corps de la résurrection, le corps de Jésus ressuscité. C'était Jésus, mais dans un corps glorieux. Arrêtons-nous sur son corps parce que nous aussi qui sommes croyants, nous ressusciterons pour être avec le Seigneur dans un nouveau corps qui sera incorruptible et qui sera glorieux. La porte était fermée, donc Jésus a certainement traversé les murs pour aller à la rencontre de ses disciples. Il s'est retrouvé au milieu d'eux. Il a traversé le mur, pourtant ce n'était pas un esprit. On pouvait le toucher. Ce qu'il a demandé à Thomas de faire un peu plus tard. On pouvait le toucher. Et Jésus avait gardé les marques des clous dans ses mains et de la lance dans son côté. Ces marques-là, il les a montrées à ses disciples. Alors c'est intéressant parce que Jésus est ressuscité dans un corps glorieux. Un corps avec lequel il est remonté au ciel. Et dans ce corps sont restées ses marques, les marques des clous et la marque de la lance sur son côté. Et on peut se poser la question pourquoi. Alors on peut faire des suppositions. Peut-être que ces marques, il les aura pour l'éternité, pour rappeler à l'humanité son œuvre à la croix, pour nous racheter. Il les avait toujours, ces marques, dans son corps glorieux. Jésus donc voulait et devait se montrer à ses disciples. Pourquoi ? Parce qu'il voulait les envoyer ensuite, les envoyer quoi faire ? Rendre témoignage. Jésus voulait et devait se montrer ressuscité à ses disciples avant de leur donner ce grand mandat missionnaire d'aller et de faire des disciples de toutes les nations. Donc il fallait que tous les apôtres le voient. Parce que de leur témoignage, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont entendu, de leur témoignage dépendrait l'efficacité de leur mission. Et donc Jésus, au verset 21, leur dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et vous avez remarqué, c'est à ce moment-là que Jésus leur donne le Saint-Esprit. Alors c'est après, à la Pentecôte qui a suivi, ça c'est dans le livre des Actes, le Saint-Esprit a été donné sur tous les croyants, mais il a commencé à leur donner le Saint-Esprit après s'être montré ressuscité à ses apôtres. Verset 21-22. Comment leur a-t-il donné le Saint-Esprit ? En leur soufflant le Saint-Esprit. Donc avec sa bouche. Le Saint-Esprit a donc été donné d'abord en vue d'aller et de parler de Jésus. Le Saint-Esprit a donc été donné d'abord en vue de la mission. La mission, c'est quoi être missionnaire ? La mission, elle a été initiée par qui ? Par Dieu lui-même. Et le premier missionnaire, ça a été Jésus. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. La mission a été initiée par Dieu lui-même qui a envoyé Jésus son Fils sur terre, le premier missionnaire par excellence. Et ensuite, d'autres ont suivi. La deuxième, c'est une femme, c'est Marie-Madeleine. La première à avoir vu le Seigneur ressuscité, à qui Jésus a envoyé pour aller dire à ses disciples qu'il était ressuscité. Et puis, a été le tour des apôtres que Jésus a envoyés. Les apôtres qui ont été les... Marie-Madeleine et les apôtres ont été les premiers missionnaires que Jésus a envoyés. Et aujourd'hui, eh bien aujourd'hui, la mission se poursuit aujourd'hui. La mission, elle est arrivée jusqu'à nous à Figeac, comme l'a dit Pascal ce matin. Elle est arrivée jusqu'ici parce que nous sommes là. Nous sommes là. Pourquoi ? Parce que cette mission d'aller et de faire des disciples, elle se poursuit encore aujourd'hui. Par qui ? Par nous, son Église. Nous n'avons pas vu le Christ, mais nous avons cru. Nous avons cru à quoi ? Pas à des rêveries. Nous avons cru à des faits, c'est factuel. Nous avons cru au témoignage de ceux qui l'ont vu ressusciter. Nous avons cru au témoignage des apôtres. Ce sont des faits historiques et ce ne sont pas des courants de pensée, ce ne sont pas juste des idées. Nous avons cru à des faits. Des faits qui sont écrits, qui sont l'Écriture, qui sont la Bible. Et lorsqu'ils nous demandent d'aller, nous ne sommes pas tout seuls. Nous aussi, nous avons le même assistant que les apôtres. Nous avons le Saint-Esprit. Il nous donne un assistant et même une puissance pour aller et pour témoigner. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Dans quel but ? Pour être ses témoins. Et je relirai dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça ne s'est pas arrêté, même après la mort des apôtres. Cette puissance, elle est à notre disposition pour être ses témoins, pour aller évangéliser, pour parler de Jésus. Bien sûr que le Saint-Esprit, je vous invite à venir au week-end d'église parce qu'il est question de l'œuvre du Saint-Esprit chez le croyant et c'est tellement riche. Donc là, je ne vais pas faire tous les tours, mais bien sûr que dans notre vie de croyant, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit, en tout cas, a agi dans la vie des apôtres. L'apôtre Pierre, il prêchera avec conviction plus tard à Jérusalem, en étant rempli du Saint-Esprit. Voici ce qu'il dit en Actes 2:32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Pierre avait changé, transformé par le Saint-Esprit. Nous, Église de Jésus, quel message sommes-nous appelés à transmettre à nos contemporains aujourd'hui, plus de 2000 ans après ? Eh bien, c'est le même qu'il y a 2000 ans. Le même qui est repris dans... ces deux versets qui sont dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Tout est là. C'est une confession de foi. Et c'est ce message-là. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, que vous parlez à quelqu'un, vous pouvez citer ce passage. Donc Jésus a envoyé ses disciples pour aller de par le monde. Mission qui se continue aujourd'hui avec l'Église. Mais bien sûr qu'il y a un préalable avant d'aller. Alors on a vu, Jésus veut d'abord nous consoler, puis Jésus nous pardonne nos péchés. Il nous donne sa paix, il nous donne sa joie, Jésus ressuscité. Nous, notre part, c'est de croire. C'est de croire avant d'aller. C'est de croire que Jésus est ressuscité et qu'il est avec vous lorsque vous allez. Parce que tous n'ont pas cru au témoignage des apôtres que Jésus était ressuscité. Non, tous n'ont pas cru. Et il y en a un apôtre parmi les apôtres qui était absent quand Jésus leur est apparu la première fois. Il s'agit de, bien sûr, Thomas. L'expression « je ne crois que ce que je vois », on ne l'a pas inventée, c'est venu de la Bible. Ça fait référence bien sûr à Thomas. Thomas, c'est intéressant de dresser son portrait rapidement. Un des apôtres, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Ce que la Bible nous dit. Mais Thomas, c'était plutôt un pessimiste. C'était plutôt un pessimiste, mais un pessimiste qui était prêt en même temps à mourir pour Jésus. On a en mémoire, dans l'évangile de Jean, lorsque Jésus a appris que son ami Lazare était mort, il a dit à ses disciples, « Allons vers lui. » Donc il fallait se mettre en route vers Jérusalem, à Béthanie. Et là, à Jérusalem, Jésus n'était pas le bienvenu par les religieux. Et Thomas, regardez ce qu'il a dit. Thomas a dit aux autres apôtres, « Allons-nous aussi, afin de mourir avec lui. » Il avait sûrement compris que revenir vers Jérusalem, c'était risqué, à cause des ennemis de Jésus. Et de par sa bouche, en tout cas, il était prêt à mourir avec Jésus. Et pas que Pierre. Thomas, un pessimiste, alors que Jésus était parti pour ressusciter Lazare, ce qu'il a fait. Mais là, Thomas, allons-y, allons-nous aussi afin de mourir avec lui. Et un pessimiste, Thomas, qui n'est pas là, lorsque Jésus ressuscité s'est montré aux apôtres réunis dans la maison. Pourquoi n'était-il pas là? La Bible ne nous le dit pas. Peut-être qu'il s'est séparé des autres disciples parce qu'il était tellement chagriné, il voulait peut-être s'isoler dans son chagrin. En tout cas, de s'être séparé des autres, il a raté quelque chose. Son isolement lui a valu de rater l'événement le plus important de voir Jésus ressuscité. Ne ratez pas les rendez-vous divins dans l'Église. Ne ratez pas les rendez-vous divins dans l'Église. Dieu nous donne rendez-vous pour nous rassembler dans son Église. Alors les autres disciples lui ont dit qu'ils avaient vu le Seigneur, mais lui répondit, je redis le verset 25, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Thomas, c'était un convaincu. Ah, il croyait pas à la résurrection, mais c'était un convaincu. Il était convaincu que Jésus n'était pas ressuscité. Thomas, on peut dire un douteur convaincu, qui ne croit que ce qu'il voit. Les autres n'étaient pas mieux. N'oublions pas qu'eux non plus n'ont pas cru, à part l'apôtre Jean, qui lui a cru sans voir Jésus. Thomas, apôtre parmi les apôtres, refusait de croire leur témoignage. Et ils étaient nombreux, ils étaient quand même nombreux. Ils devaient être 10, hein, puisque Judas n'était plus là. Et avoir vu le Seigneur. Mais il ne les a pas crus. Imaginez un peu si vous aviez été un des apôtres. Comment vous auriez réagi face à Thomas? Quoi, tu me traites de menteur? Mais non seulement moi, mais aussi tous les autres là qui l'ont vu aussi. Thomas était un douteur convaincu. Peut-être ça vous est arrivé de vous trouver face à des doutes, des gens qui ont des doutes, de vous trouver face à des incroyants qui, comme Thomas, ne croient que ce qu'ils voient. Moi, je l'ai entendu hein, des fois dans mon travail il y a longtemps. Je crois que ce que je vois. Mais les autres apôtres ont été des témoins directs. Ils ont vu de leurs yeux Jésus ressuscité. Ils ont vu Jésus, et en quelque part, ça aggravait le cas de Thomas. Ils ne croyaient pas les autres. Alors que faire dans ce cas-là, quand on est face à quelqu'un qui ne croit pas? Notre force de persuasion, elle a ses limites. Mieux vaut laisser le Seigneur se révéler lui-même aux incrédules, ce qu'il a fait avec Thomas, quand il a choisi de revenir 8 jours après vers les apôtres. Et là, Thomas est là, il est présent. Et là, que dit Jésus? Est-ce qu'il commence par des reproches? Non. Il leur redit pour la 3e fois que la paix soit avec vous. Il aurait très bien pu laisser Thomas dans son incrédulité, mais ce n'était pas dans son plan. Il fallait que Thomas aussi le voie ressuscité pour qu'il aille témoigner. Qu'a fait Jésus face à Thomas? Eh bien, il a accédé très précisément à sa demande. Il s'est mis à son niveau. Il lui a demandé de mettre ses mains dans ces marques de clous et de lances. Non seulement de voir les marques, il les avait à Jésus, mais il lui avait demandé de mettre le doigt dans la marque des clous et la main sur le côté où avait été la lance. Alors que Jésus aurait pu le laisser dans son incrédulité, non. Jésus s'est révélé à ce douteur convaincu qu'est Thomas. Le Seigneur est patient. Et peut-être que parfois vous êtes découragé de voir quelqu'un que vous, peut-être dans votre famille, vous aimeriez tant qu'il croit. Mais ce n'est pas encore le cas. Je le redis, on peut prier que le Seigneur envoie d'autres croyants sur leur route, que le Seigneur les interpelle, que le Seigneur se révèle lui-même à eux. Face à ceux qui doutent, il peut se révéler directement à eux, même sans se montrer. Alors, eh bien, Thomas transformé, Thomas, le doute pessimiste, celui qui doute, eh bien, son doute et son pessimisme ont laissé la place à quoi? À une grande joie et à l'adoration quand il voit Jésus. Et que dit-il? Mon Seigneur et mon Dieu. On ne dit pas ça à tout le monde. Hein? Alors, à ceux qui doutent que Jésus est Dieu, qu'a fait Thomas ici? Il a adoré Jésus. L'adoration revient à Dieu seul. Et qu'a fait Jésus? Est-ce qu'il a repris Thomas? Non. Jésus s'est laissé adorer. Autre preuve que Jésus est Dieu. Si vous êtes devant quelqu'un qui nie la divinité de Christ, Jésus n'a pas repris Thomas quand il lui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il s'est laissé adorer. C'est étonnant on peut être étonné que Jésus, parmi ses apôtres, ces 12 apôtres, il ait choisi un douteur aussi convaincu que Thomas. Il le connaissait. Hein. Il a choisi de l'intégrer dans son équipe. Quelqu'un qui doute. Eh bien, s'il a choisi Thomas, c'était pour nous montrer, et à lui aussi bien sûr, que lui, Jésus, le ressuscité, il peut transformer et il peut sauver n'importe qui. Même le plus convaincu des incrédules. Même celui qui est très froid, même celui qui est glacial, même qui ne croit pas, Jésus peut le rendre croyant. La preuve en est l'apôtre Thomas, qui avait vu Jésus avant sa mort, et à qui Jésus s'est montré. À vue humaine, c'est impossible. Mais c'est possible pour Dieu. Pourquoi? Parce que justement, Jésus est ressuscité. Il peut convaincre les plus incrédules qu'on peut connaître. Alors il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ceux qui ne croient pas. Jésus dira à Thomas tout de même, ne sois pas incrédule, mais crois. Et n'en doutons pas, la conversion des incrédules convaincus fait d'eux des croyants convaincus, bouillants, des instruments de choix entre les mains du Seigneur. Je citerai simplement l'apôtre Paul, que Dieu a transformé et à qui Jésus ressuscité s'était montré. Alors, je reviens à la question du début, faut-il voir pour croire? Eh bien, la réponse est oui, mais seulement pour les apôtres. Uniquement pour les apôtres. C'était le préalable avant qu'ils aillent témoigner. Ils allaient témoigner de quoi? Qu'ils ont vu le Seigneur. Donc oui, il fallait que eux voient avant de croire. Et à l'autre question, faut-il croire pour voir cette fois? Eh bien, la réponse est oui. La réponse est oui pour nous qui n'avons pas vu, mais qui avons cru le témoignage des apôtres, qui eux ont vu. Il y a même une bénédiction spéciale qui repose sur tous ceux qui ont cru sans avoir vu, que Jésus dit à Thomas, et qui est pour nous tous qui n'avons pas vu le Seigneur. Et si nous sommes là, c'est que nous avons cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et puis, j'en reviens à la résurrection de Lazare, que Jésus a ressuscité Lazare. Il avait dit à Marthe, sa sœur, la sœur de Lazare, il avait dit, et il nous le dit à nous aussi. En Jean, l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40, « Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alors voilà, croire, c'est effectivement, c'est le but de l'évangile de Jean. Jean aurait pu décrire tous les miracles de Jésus, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pour mettre l'accent sur la foi. C'est la foi dans l'Écriture qui est importante et pas les miracles extraordinaires visibles. C'est le but même de l'évangile de Jean. Je vous relis les deux derniers versets de l'évangile de Jean, versets 30 et 31. Jésus a encore fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors on peut se poser la question aussi, personnellement et en Église, si vous êtes de ceux qui croyaient que Jésus est ressuscité, se pose cette question, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que ça change dans notre vie que Jésus est réellement ressuscité? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Je crois qu'on doit tous se poser cette question. Jésus est ressuscité, qu'est-ce que ça change dans ma vie personnelle? Eh bien, premièrement, la résurrection prouve que nous pouvons être pardonnés de nos péchés. C'est la résurrection de Jésus, c'est la preuve que son sacrifice à la croix, il a suffi à satisfaire la justice de Dieu pour nous pardonner nos péchés. Si Jésus était resté mort, il y aurait eu des raisons de s'inquiéter et de rester affligé, sans aucun espoir, comme l'étaient les apôtres. Parce que ça aurait voulu dire que son sacrifice, le prix payé par son sang, n'aurait pas été suffisant. Mais ce n'est pas le cas. Jésus est ressuscité. Donc nos péchés, quand nous lui confessons nos péchés, il les pardonne. Il les pardonne. Et quand on s'en repent, bien sûr. Et justement, c'est ce qu'il nous invite à faire. Et parce que c'est en croyant qu'il est ressuscité, que Jésus va nous donner ce qu'il a donné à ses apôtres. Il nous donne la consolation. Il nous donne la joie. Il nous donne la paix. Il nous donne le Saint-Esprit. Parce que Jésus est ressuscité. Aussi, la résurrection de Jésus prouve que Jésus a vaincu nos trois ennemis mortels. Et il nous donne cette victoire. Nous aussi, nous pouvons les vaincre. C'est lui qui l'a vaincu pour nous. Ces trois ennemis, ce sont la mort. Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité. L'autre ennemi, c'est le diable. Le diable qui doutait que Jésus soit fils de Dieu. Mais il l'a prouvé par sa résurrection. Et l'autre ennemi sur lequel nous pouvons avoir le dessus, il est en nous, celui-là, c'est le péché. Nous pouvons avoir la victoire sur notre péché. Parce que Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort, le diable et le péché. Avant de terminer, il y a un verset qui peut poser des questions, le verset 23. Ceux à qui vous, donc Jésus s'adresse aux apôtres, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comment comprendre ce verset? Qui est-ce qui pardonne les péchés? Bien sûr, c'est Christ qui pardonne les péchés. Nous ne faisons que parler de sa part et proclamer le pardon des péchés à celui qui croit en lui. Dans ce sens-là, ils sont pardonnés de leurs péchés. Mais si quelqu'un ne croit pas, si quelqu'un s'obstine dans son incrédulité, dans sa mauvaise voie, eh bien nous, il nous est permis non seulement d'annoncer la grâce de Dieu, mais aussi d'annoncer que quelqu'un qui ne veut pas se repentir, il risque gros. Il nous est permis de le mettre en garde, que s'il ne croit pas, ses péchés lui sont retenus. Il est en danger de mort éternelle. Il n'y a pas de juste milieu. Dans ce sens-là, nous parlons de la part de Jésus. Alors, la question se pose, puisqu'il est question de croire à la résurrection au Christ, de Christ. Est-ce qu'un musulman peut croire? Est-ce qu'un juif peut croire en Jésus? Est-ce qu'un enfant de 4 ans peut croire en Jésus? Est-ce qu'une personne âgée qui est à l'aube de sa vie peut croire? Oui, il peut. Rien n'est impossible à toi. Pourquoi? À Dieu. Pourquoi? Eh bien, c'est possible parce que Jésus est ressuscité. Il est vivant et il se révèle à qui il veut. C'est lui qui travaille dans le cœur. Voilà une bonne raison de lui rendre gloire. Je vais terminer par la prière. Oui, Seigneur, on n'a pas fini. On n'a pas fini, Seigneur, plus de 2000 ans après, de considérer ce que tu as fait pour nous, de considérer que tu es vivant, Seigneur, pour nous prendre avec toi, Seigneur. Tu as fait tout cela pour nous avoir avec toi. Quel amour, Seigneur, tu nous as pas laissé à notre sort, tu nous as pas abandonné malgré tous nos doutes, malgré, Seigneur, parfois notre incrédulité aussi. Mais tu sais comment t'y prendre exactement avec chacun d'entre nous. Tu as su comment prendre Thomas, Seigneur, et l'amener à t'adorer, comme tu l'as fait, Seigneur, avec tant d'autres. Seigneur, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons t'adorer parce que, Seigneur, tu en es digne et tu es vivant pour toujours. Tu es vivant pour toujours, Seigneur. Que nous soyons pleinement, Seigneur, vivants de ta vie à toi, Seigneur, avec la foi, cette foi en toi, que nous ne voyons pas, mais que nous te verrons un jour, Seigneur. Voilà, merci encore, Père, de nous rappeler ces choses, et sois notre paix, sois notre joie, Seigneur, et que, Seigneur, nous soyons des flambeaux dans ce monde, Seigneur, que nous ne mettions pas notre lampe sous le boisseau, mais que nous sachions comment répondre à ceux qui nous demandent qu'est-ce que nous croyons, pourquoi nous avons l'espérance, qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Seigneur, que nous te voyons, tu agis, Seigneur, tu es vivant, que nous te voyons dans les rendez-vous que tu nous fixes, les personnes qu'on peut rencontrer. Seigneur, il n'y a pas de hasard avec toi, et qu'on sache être tes témoins, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.